Merci Pierre. Merci Farid aussi pour l'initiative de ce moment. Merci pour tous les témoignages de ce matin. C'est vraiment un encouragement pour moi parce que c'est vraiment le thème que j'avais à cœur pour ce matin. J'avais envie de revenir sur le verset proposé par l'équipe en début d'année. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Et qui nous encourage tous à œuvrer, à aller avec Dieu, que Dieu vienne en nous et qu'on soit tous participants de sa gloire sur terre. J'avais cette phrase qui résonnait en moi, qui me disait « Les idées, c'est vrai que c'est bien, mais les actes, c'est mieux. À quoi sert ce qu'on croit si dans la pratique, en fait, ça ne fait pas la différence ?» Et quand je vois tout le témoignage que vous avez donné, franchement, c'est vraiment beau parce qu'on voit que Dieu est vraiment à l'œuvre en vous. Voilà, donc l'homme est vraiment un être qui œuvre, on porte du fruit. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça pour sa gloire. Et on a besoin de réapprendre ça, petit à petit. Alors, que fait l'homme, hein ? C'est une des grandes questions existentielles. Le monde se pose cette question depuis des milliers d'années. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? On en a même fait une science, les sciences humaines, la science de l'homme. La politique, la psychologie, la philosophie, tout ça montre à quel point on se cherche, on a besoin d'un cap et on ne le trouve pas toujours. Nous, en tant que croyants, la Bible nous dit énormément de choses à ce sujet. Et elle nous apprend entre autres que ce qu'on fait, ça dépend de ce qu'on croit. Dans toute la Bible, que ce soit des récits de conquête ou bien les proverbes, tout le Nouveau Testament, les exhortations, les paraboles, tout ça, dans toutes ces choses, Dieu nous apprend, Dieu nous encourage à manifester dans nos vies la foi qu'il fait naître en nous. Et c'est beau. Jacques nous dit « Montre-moi ta foi sans tes œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tout ce que je crois, je te montrerai ce que c'est. » Jésus il nous a dit un peu la même chose en nous disant « Celui qui croit en moi fera lui-même les œuvres que je fais et il en fera même des plus grandes. » C'est un peu... Donc la foi chrétienne, c'est quelque chose de pragmatique. On est appelé à être cohérent entre ce qu'on croit et ce qu'on vit tous les jours. Il n'y a pas le spirituel d'un côté, le matériel de l'autre. Et quand on voit ce matin tous les témoignages, on se rend compte à quel point c'est vrai, à quel point Dieu est puissant, il est actif dans nos vies, avec nous. Tout se rejoint, tout travaille ensemble et c'est le fruit de nos vies. J'avais envie de revenir un peu en Genèse pour voir l'intention puissante de Dieu quand il nous a créés. Il nous a donné une identité forte. C'est Thomas qui nous en parlait en début d'année. Voilà, c'est être à sa ressemblance, être son image sur terre. Et avec ça, il nous a donné une vocation puissante, une mission puissante sur terre qu'on pourrait appeler le mandat un peu culturel, hein, ce qui nous distingue en fait des animaux. C'est les cinq verbes qui sonnent un peu comme des décrets, ces paroles puissantes de Dieu qu'il prononce et qui s'accomplissent forcément, parce que c'est lui qui l'a dit. Il nous a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez-la. » C'est les cinq verbes. Et tout ça, c'était pour sa gloire. L'enjeu de la création, c'est l'adoration de Dieu. Après, on voit dans la pratique que chacun de ces cinq verbes nous implique quotidiennement dans tout ce qu'on fait. On répond à cette parole de Dieu. Par exemple, dans le « Soyez féconds, multipliez », ça renvoie tout le volet social de nos vies. Notre couple, notre famille, les différents groupes dans lesquels on s'investit, la société même en général. Chacun de nous fait énormément dans ce domaine-là. Le « Remplissez la terre », c'est vraiment cette idée de la parcourir, de la découvrir, de la construire aussi, de mettre en relation chaque région, en fait. On répond à ça par le commerce, par exemple, par rapport à tous les projets d'urbanisme, par exemple. C'est une interprétation qu'on fait de cette parole-là de Dieu. Donc concrètement, dans nos vies, cette parole que Dieu a prononcée il y a des milliers d'années, elle prend acte dans nos vies quotidiennement. Ensuite, pour assujettisser, dominer, c'est pareil, ça s'incarne vraiment, chacun de nous répond à cette parole-là de Dieu dans nos quotidiens. Voilà, donc c'est Dieu qui a voulu qu'on fasse, qu'on soit actif, et le problème, ce n'est pas de faire, mais c'est de faire sans lui. Ça a été un peu la sortie fracassante de Adam, au moment de la chute, de prendre de ce fruit et de dire « je vais faire, mais sans Dieu. Je vais choisir sans Dieu. » Il s'est affranchi, il est devenu autonome. Le serpent a dit « vous serez comme Dieu, choisissant vous-même le bien, le mal. » Mais il nous a menti, on n'est pas devenu comme Dieu, on est devenu sans Dieu pour faire tout ce qu'on avait à faire. Et d'un coup, ça a été une charge puissante sur nos épaules. Ça a été comme si on avait perdu notre source, la source de la vie. Voilà. Aujourd'hui, l'homme se prétend libre. On dit qu'on est libre, c'est une valeur très, très actuelle. Mais Dieu dit qu'on est livré à nous-mêmes. On se prétend intelligent, mais on est devenu fou, dit Paul en Romains. Aveugle, conducteur d'aveugles, nous dit Jésus. Donc ça fait moins rêver de suite de faire tout ça comme ça. Voilà, on a besoin de faire ce constat humble qu'on n'est pas capable en fait de faire sans Dieu. On n'est pas suffisant, on n'est pas complet. Dieu avait prévu dès le départ de faire, mais de faire avec lui, en lui. C'est cet appel de ce verset de l'année. Hein. Demeurez en moi, vous porterez du fruit en abondance, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, donc Jésus nous a réconciliés avec lui. Et être en lui, c'est retrouver notre juste place, en fait. C'est retrouver une paix qu'on avait perdue, qu'on perd si on est en dehors de lui. Et même aujourd'hui, en tant que croyant, toutes les fois où on est en dehors de lui, où on perd ce cap, on perd quelque chose d'essentiel pour nos vies. Voilà, notre vocation, c'est de manifester la gloire de Dieu avec toute la création, d'amener toute la création dans cette gloire-là de Dieu. Le reste, c'est une illusion et c'est une perte d'énergie et de temps et de tout. Tout vise à adorer Jésus. Sa révélation, c'est pas rien, c'est pas le petit sacrifice nécessaire. Vraiment, tout vise à l'adorer. J'aime bien ce passage de Colossiens 1, versets 15 à 20, qui nous dit « Ce Fils, il est l'image de Dieu. Par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous son gouvernement. Ainsi, nous sommes destinés d'avance à célébrer sa gloire. Tout aboutit à célébrer sa gloire. Il fait aboutir toute chose dans nos vies à célébrer sa gloire. Et ça, c'est bon. » Je vous renvoie sur le message de David la semaine dernière qui a vraiment aussi exprimé cette idée-là que Dieu nous a fait des talents, il nous a fait des dons et tout ça, c'est pour célébrer sa gloire. Tout vient de lui, tout subsiste en lui et pour lui. C'est son idée, c'est pour sa gloire et c'est avec son aide. Alors concrètement, ça demande dans nos quotidiens de réapprendre ce cap-là. De faire tout à fait autrement et ça implique tous les domaines de nos vies. Je vais prendre l'exemple de l'animal battu, les chevaux battus. J'ai vu qu'il y avait. Voilà. Quand j'étais plus jeune, j'étais passionnée d'équitation. Et alors, je passais le plus clair de mon temps dans un centre équestre et on avait accueilli dans ce centre équestre un cheval qui était battu en fait. Donc, il a changé de maître, il a changé d'environnement. C'était un lieu respectueux, aimant. Mais il était impacté par tout ce qu'il avait vécu auparavant, dans son caractère, dans ses réactions. Il faisait tout en fonction, en fait. Il était campé dans une certaine mentalité. Quoi. Il était craintif, sur la défensive, fuyant, violent. Donc il était impossible à travailler. Il n'avait pas appris à voir que les choses étaient devenues nouvelles. Alors on a le choix quand on est face à un animal comme ça. Soit on le prend et on l'envoie à l'abattoir parce qu'il n'y a à peu près rien à en faire. Soit on lui consacre du temps, de l'énergie, des moyens, beaucoup de moyens. On s'engage en fait envers lui parce qu'on a un projet et une vision pour lui. Alors c'est ce qu'on a fait avec une amie. On avait 2 mois de vacances à tuer. Et on y allait quotidiennement et on a progressé petit à petit. On lui a appris dans la confiance, la réassurance. Il a redécouvert aussi toutes ses capacités, tout ce dont il était capable et que lui-même ne voyait plus en fait. On ne lui a pas fait sauter 1m30 à la première séance, ni à la seconde, mais vous voyez l'idée quoi, de progresser petit à petit, de l'amener à un endroit parce qu'on sait qu'il en est capable et qu'il pourra le faire. Voilà, marcher avec Dieu, c'est un peu la même chose, c'est un processus, c'est un chemin. Sa parole, son esprit, son église, tous les dons qu'il nous fait, dans toutes ces choses, il se révèle à nous, il se fait connaître, il renouvelle notre intelligence, il change notre cœur, il nous donne un cap tout à fait nouveau, il redevient le centre fort de nos vies. Et nous, on collabore à ça, on apprend à collaborer à ça. Ça concerne tous les domaines de nos vies. Quand on voit tous les témoignages qui ont été donnés ce matin, je me dis, waouh, il n'y a rien qui est laissé à l'abandon par Dieu. Tout est investi par lui. Et on est autant de gouttes, comme ça a été dit, autant de gouttes qui faisons que ça change l'atmosphère. Ce n'est pas un perfectionnisme non plus. Hein. Le but, ce n'est pas d'être impeccable du jour au lendemain. Dieu use de grâce envers nous. Faisons aussi de même. Voilà, ça fait une différence. Paul dit, je sais que je ne suis pas arrivé, je n'ai pas atteint le but, la perfection, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, oubliant cette vie de cheval battu, je regarde devant et je cours la course qui m'est offerte. Il y a des centaines de possibilités de manifester la gloire de Dieu, et c'est là la liberté qu'on a, chacun de nous, d'imaginer, d'entreprendre, de composer. Il est le cep, il n'est pas le sarment, il ne fera pas tout à notre place. Mais par contre, il est avec nous, il nous aide. Si on a des besoins, on peut lui demander. Il sait à quoi il veut nous amener et il sait que ça passera nécessairement par lui. 2 Corinthiens 3, verset 13 nous dit « Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. » C'est vraiment une espérance pour nos vies. On change complètement de manière de vivre. Il nous dit une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Voilà, j'avais envie de vous laisser avec un petit mémo pratique pour que ce qu'on croit impacte ce qu'on fait dans les différents domaines de nos vies. Quand on est confronté à une situation où on sent bien que on a besoin de se positionner. J'avais envie du coup de revenir sur les 5 piliers de la foi protestante, puisque c'est ce qu'on croit, et de se poser les questions qui vont en fonction dans nos vies. L'idée, c'est d'être en Dieu dans ce qu'on entreprend. Donc les 5 piliers de la foi protestante. Hein, je ne sais pas si ça vous parle. Si. Donc l'écriture, la foi, le Christ, la grâce et la gloire de Dieu. Et l'Esprit qui vient travailler à toutes ces choses-là pour nous les ressortir. Par rapport à l'Écriture, il y avait une question qui me revenait, c'est qu'est-ce que dit l'Écriture dans le domaine où je m'apprête à entreprendre ? Si on se pose une question pratique, il y a vraiment toutes les chances qu'il y ait quelque chose dans l'Écriture, parce que tous les domaines de la vie s'y trouvent. De la Genèse à l'Apocalypse, tous les domaines d'existence de l'homme s'y trouvent. Le deuxième pilier, c'est avec foi. Et la question qui me venait en fonction, c'était qu'est-ce que je crois dans la situation où je m'apprête à faire ? Est-ce que je crois concrètement que les valeurs de Dieu vont faire une différence ? Et j'apprends à découvrir cette différence qu'elles font. Est-ce que je crois que Dieu est souverain ? Est-ce que je crois qu'aucun domaine de ma vie ne lui échappe ? Que ce soit le travail, l'école, la famille, l'écologie, l'économie, tout en fait. Est-ce que je crois qu'il me rend capable d'entreprendre ? Ou alors, est-ce que je suis toujours dans une mentalité de cheval battu qui a peur, qui va chercher à fuir, qui va avoir peur que ça échoue ? Voilà, donc faire les choses avec foi, savoir qu'est-ce qu'on croit dans la situation où on est. Le troisième point, c'était Jésus, la personne de Jésus, son œuvre, puisque ça change tout. On est appelé, destiné d'avance à devenir conforme à son image. Alors que ferait Jésus à ma place, là, concrètement ? Et ce n'est pas une question farfelue, parce qu'au final, il a connu les mêmes genres de situations que ce que nous, on connaît au quotidien, dans un autre cadre, bien sûr, mais il a eu à être un enfant, il a eu à obéir, à se former. Il a vécu une vie de famille, il a travaillé, il a influencé sa région, il a eu à se positionner face aux autorités, il a eu à répondre aux besoins des autres, il a eu à initier une vie d'église, à démêler des conflits, voilà, que des choses dans lesquelles on peut se retrouver aussi. Et en toutes ces choses, il a été trouvé selon le cœur de Dieu. Voilà, donc c'est l'exemple parfait quoi, pour nous. Quatrième point, c'est par grâce. C'est construire tout ce qu'on fait sur la reconnaissance que tout nous vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu ? Par exemple, ce matin, moi, ça m'inquiétait un peu de venir discuter là devant vous. Mais voilà, je me suis posé cette question. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas reçu de toi ? Ma vie, ma foi, mon Église aussi, tout ça, c'est un don de Dieu. Et si je prends conscience de la générosité de Dieu envers moi, ma réponse va être différente. Le cheval battu dont je me rappelle, il aurait fui. Il aurait dit non, ça je ne le fais pas. Mais la bonté de Dieu m'apprend à faire ce que je n'aurais pas fait sans lui. Est-ce que je reconnais donc qu'il est la source de tout et qu'il continue tous les jours à me donner ce dont j'ai besoin ? Voilà, le cinquième point, et puis j'en aurai fini après, c'est pour la gloire de Dieu. Donc ça, on en a un peu parlé en partie 2. Qu'est-ce qui rend gloire à Dieu dans cette situation ? Qu'est-ce qui lui plairait ? Qu'est-ce qui lui serait agréable ? Puisqu'on voit réellement que nos vies peuvent être un culte agréable à Dieu. C'est vrai, on peut être réconcilié avec cette idée-là. C'est que nos vies peuvent être un culte agréable à Dieu. Voilà, et il va nous y conduire, il va nous apprendre. Voilà. C'était le petit mot que j'avais à vous partager. C'était un encouragement voilà, à y aller, à assumer toute notre vie, mais vraiment ne rien laisser de tous les domaines dans lesquels on entreprend, ne rien laisser sans la présence de Dieu, parce que lui, il a vraiment cette intention d'être en nous, en toutes choses. Il y a un chemin de vie pour nous en toutes choses. Il n'y a rien qui est délaissé, pas même notre travail. Enfin, c'est Henri qui en témoignait. Voilà, même dans notre travail, il y a une manière de faire qui est vraiment le sel pour la terre. Voilà. Donc dans toutes ces choses, cherchons sa volonté et élevons son nom, puisqu'on est appelé à œuvrer et que c'est pour sa gloire. David, dans ses psaumes, il dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi ».